Eh bien bonjour, vous êtes bien sur Radio FM+, et vous avez reconnu l'indicatif, c'est l'indicatif que nous avons choisi cette année pour le festival de Radio France Occitanie Montpellier, qui se tient donc à Montpellier dans toute l'Occitanie, du 9 au 27 juillet. Alors, c'est la dernière émission, huitième et dernière autour de ce festival, festival dont le thème était Douce France. Et en fait, nous avons eu la chance de rencontrer le chef d'une des derniers grands concerts du soir à Montpellier, c'est-à-dire Hervé Niquet, qui était là à Montpellier et qui nous a fait une œuvre tout à fait méconnue qui s'appelle Les Cris de Paris. Et les Cris de Paris, c'est une symphonie de Jean-Georges Kastner, 1810-1867. Alors j'ai eu la chance de le rencontrer hier, et en première partie de ce concert, il y avait tout simplement le concerto pour clarinette numéro 1 de Karl Maria von Weber, qui était joué à la clarinette par Paul Meyer, et en deuxième partie donc du concert, cette symphonie de Kastner qui est assez longue. Voilà, alors nous avons eu donc la chance de rencontrer Hervé Niquet hier, dans l'après-midi, dans son hôtel. Donc nous allons voir tout ce qu'il va vous raconter autour de cette œuvre de Kastner, puisque finalement le concerto pour clarinette, nous le connaissons bien, et nous écouterons également des petits extraits musicaux. Nous écouterons une œuvre jouée par justement Paul Meyer et un de ses instrumentistes favoris, l'accordéoniste Pascal Conté, que vous devez connaître. Et ensuite, eh bien, nous écouterons des extraits justement de ce Cri de Paris de Monsieur Kastner.
Hervé Niquet, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Voilà. Donc, premier de concert. Donc, d'abord, le concerto pour clarinette numéro 1 de Weber. Bon, j'ai envie de dire, celui-là, vous n'avez pas sorti une partition cachée derrière les fagots.
Ah non, pas du tout. Ça, c'est un tube 19e, 1811. C'est une des plus belles pages de Karl Maria von Weber. Et puis surtout, ben là, comme soliste, il y a quand même Paul Meyer, qui est un soliste français internationalement reconnu. Enfin, c'est une crème, c'est un son extraordinaire, un poète, enfin tout, quoi.
Donc, de ce côté, basique, on joue basique. Par contre, Kastner, là, vous êtes allé nous chercher quelque chose d'un peu particulier.
Oui, alors ça, je connaissais la partition depuis très longtemps, mais vraiment, j'avais oublié ça. Et c'est Corinne Delafont qui préside un petit peu au découvert du festival maintenant, qui m'a dit il y a 2 ans, écoute Hervé, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce truc, parce que c'est vraiment un truc, hein. Sérieusement, on dirait, les musicologues diraient un poème symphonique, moi je peux vous dire c'est un truc. Elle me dit, faisons ce truc. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, j'ai dit, évidemment, allons-y. Et donc, on est en train de faire le truc, et c'est vraiment un truc.
Alors, il y a combien? 4-5 ans, on avait eu un CD, un CD qui s'appelait Les Cris du Cri. Je ne sais pas si vous en rappelez.
Non.
Voilà, ils étaient venus ici, c'est l'ensemble Clément Jeannequin, oui. Ils avaient fait un petit extrait, j'ai noté, c'est juste un extrait de la deuxième partie.
Bien sûr,
un extrait, moi j'avais trouvé ça assez rigolo comme truc, ils avaient un peu expliqué, bon et puis ça avait disparu de ma tête, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, les Cris de Paris, ça me dit quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une symphonie, c'est un mélodrame au sens où on le faisait, où Schumann en a écrit, des choses comme ça, c'est du Berlioz ressucé, c'est quoi?
Eh bien, c'est un peu hors norme. On pourrait appeler ça un poème symphonique.
Ouais.
Il faut d'abord rappeler qui est Kastner. Kastner, l'air de rien, c'est inconnu, est un très 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 bon compositeur.
Ouais.
Il a écrit notamment un opéra qui s'appelle Maschera, qui a été joué à l'Opéra Comique. Il a fait plusieurs poèmes symphoniques, beaucoup de musique de chambre. Il a été aussi ami de sax, vous savez, ce facteur d'instrument, voilà, invention du saxophone, du saxhorn. Et du coup, Kastner est devenu un grand spécialiste de la musique militaire. Il a écrit le premier traité pour la musique militaire à l'usage de l'armée française en 1848, date de la création de l'harmonie de la garde républicaine qu'on va entendre dans ce concert.
Ah d'accord, ça ne date pas d'avance.
Non, donc c'est vraiment historiquement une chose importante. Et voilà, et on a un Kastner strasbourgeois qui va faire une carrière formidable, une vraie star, on l'a oublié évidemment. Et là, ce qu'on a découvert à la Générale, Et pendant ces 5 jours de travail, c'est que le type est un compositeur absolument génial. Il ne laisse aucune liberté à personne. Tout est organisé à la moindre triple croche près pour laisser croire au naturel. Parce qu'avec ses cris de Paris, ce qu'il est en train de brosser, de dessiner, de réinventer, de montrer, c'est le bordel, j'ai pas d'autre mot, de la vie à Paris en 1848-1850. C'est absolument phénoménal. Donc vous entendrez le réveil de la capitale avec le coq qui chante, parce qu'il y en avait encore plein dans la capitale. Et puis vous allez entendre tous les marchands qui viennent vendre leurs marchandises, et vous allez entendre les problèmes dans tous les appartements, tout le monde qui fait... C'est extraordinaire.
C'est la vie monde d'emploi.
Ah, mais c'est extraordinaire. Et donc il organise ce fameux bordel à la triple croche près. Si vous déviez de ça, vous cassez la machine. C'est absolument et génialement orchestré.
Alors, il y a donc un orchestre symphonique, il y a aussi, un grand chœur, il y a un chœur d'enfants, et vous avez fait venir justement l'harmonie de la garde républicaine. Alors, tout est très différencié ou c'est une espèce de grand Capharnaüm?
C'est un Capharnaüm. Alors, on a besoin de plusieurs ensembles. Évidemment, on a besoin du chœur symphonique. On a besoin de quelques enfants. On a besoin de 3 solistes. On a besoin de 4 cordes de chasse qui vont jouer au lointain.
Des vraies cordes de chasse. Hein.
Des vraies cordes de chasse qu'on appelle des trompes. On a besoin d'un gros orchestre symphonique. On a besoin de 2 pianos. On a besoin de 2 harpes. On a besoin de tous les objets, des enclumes, des fouets, des grelots. Truc insensé, et puis surtout on a besoin d'une musique militaire. Et donc ceux actuellement en France qui sont les seuls capables de faire ça, de joindre les deux bouts, j'allais dire, ben c'est tout simplement nos orchestres de la garde républicaine. L'harmonie qui est exceptionnelle, vraiment. Là il y a 50 musiciens, mais c'est extraordinaire.
À l'harmonie, ils sont 50.
Ah, ils sont 50.
Donc plus, il y a tous les instruments qu'on peut imaginer.
Oui, il y a une armée de clarinettes, de saxophones, de saxhornes, de tuba, de trompettes, cors, tous les instruments de cavalerie, toutes les percussions. Et puis l'orchestre symphonique, qui est lui aussi les cordes de la garde républicaine. Alors tout ça sur le plateau du quorum, on est à peu près 180, quoi.
D'accord.
Ça fait du monde.
Ça fait plus de monde que pour les Water Music, presque.
Ah ben c'est le double. Là, c'est phénoménal. Et Kastner va écrire, mais à la virgule près, l'emploi de tout le monde. C'est formidable.
D'accord. Alors c'est en 3 parties, me semble, hein, c'est
oui.
Ça
oh ben c'est simple. C'est le matin, le jour, la nuit.
Alors dans quel cadre il a fait ça?
Eh bien, c'est... il a fait toute une série de poèmes symphoniques. Je pense qu'il aurait été très bon peintre. Donc voilà, il y a plusieurs sujets. Et puis celle-ci, c'est Cris de Paris. Alors c'est un peu en hommage à Jeannequin, évidemment. Alors le livret a été remodelé façon 19e avec une histoire d'amour entre Titiana et puis un promeneur. Et plus tard, il y a un dormeur. Enfin voilà, l'histoire
oui, c'est
est
ça,
assez
le
jolie.
Dormeur, oui.
Et puis, à la fin, il y aura aussi les marchands de journaux, les gens qui, elles, pour vendre des tickets dans les théâtres, etc., les gamins des rues qui... Bref. Donc, la Libye, c'est un poème symphonique sur la vie à Paris en 1850-1860. C'est un sommet de poésie, de tendresse, d'humour, parce que le titre exact, c'est « Grande symphonie humoristique ».
Oui, c'est ça, il y a de l'humour.
Voilà. Une grande symphonie humoristique de... Voilà.
Et ça a été donné plusieurs fois. On connaît les à quel endroit ça a été donné, effectifs et choses comme ça.
Oui, absolument. Ça a été donné donc à la création. Je ne me souviens plus si c'est Strasbourg ou Paris. Et puis à Montpellier, le 26 juillet 2018. Voilà. Donc, je pense qu'il faut profiter parce que ça ne sera jamais redonné, quoi. Il faut le dire, c'est un tel merdier de réunir toutes ces équipes énormes qui doivent être vraiment virtuoses, que je pense que le festival a fait ce coup d'éclat, mais on n'entendra pas ça avant longtemps.
Il y a un disque de prévu après ou pas du tout ?
Non, mais par contre, on en fait un objet pour... je vous rappelle que c'est le festival de Radio France Montpellier, donc on a beaucoup travaillé avec France Musique ce matin à la Générale. On a beaucoup travaillé avec France Musique pour enregistrer ça. Pendant les répétitions et pendant le concert, pour en faire un objet qu'ils pourront rediffuser, parce qu'ils veulent absolument une trace de cet événement.
D'accord. Alors, est-ce que finalement, il y a eu après Cri de Paris, ou est-ce que c'est finalement une œuvre toute seule comme ça, faite par un monsieur un peu bizarroïde, ou est-ce qu'on peut penser que des mélodrames ou des choses comme ça, Schumann a fait des mélodrames, mais c'était pour piano et voix, c'était parlé, c'est tout. Donc,
ça a laissé des traces. De toute façon, Kastner a laissé des traces. Il a laissé des traces dans la facture instrumentale avec sax, il a laissé des traces dans tout ce qui est pédagogie, et il a laissé des traces dans pas mal de mémoires de ses contemporains. Berlioz l'admirait. Et vous allez voir que le type, vous allez reconnaître avec des fulgurances un morceau de Mozart, un morceau de Beethoven, un morceau de Mendelssohn.
C'est clair.
C'est clair.
Oui, c'est piqué, clair. c'est clair.
Brusquement, on se demande, mais où est-ce qu'on est ? Pardon, j'ai perdu. Non, ben c'est ça. Ça dure 2 secondes, 3 secondes. C'est d'une fulgurance formidable. Et puis il y en a des tripotés comme ça, c'est vraiment humoristique. Et puis aussi ténor et basse, alors les archétypes du ténor d'opéra qui s'enflamme, qui fait des vocalises à tour de bras parce qu'il a l'espace pour lui-même. Et je pense que nous, on a oublié complètement ce compositeur, mais chez ses contemporains, il a laissé beaucoup, beaucoup de traces et de bonnes impressions.
Et techniquement, il y a des difficultés, indépendamment peut-être de du boulot du chef pour entendre tout ça et pour mener tout ça, mais est-ce qu'il y a des difficultés pour les voix ? Vous avez parlé du ténor, mais c'est...
Oui, je dirais pas que c'est difficile, mais je dirais que c'est extrêmement délicat. C'est tellement impressionniste, c'est tellement bien organisé que il exige de tout le monde une précision, mais vraiment chirurgicale. Donc voilà, la plus grosse difficulté, c'est pas l'ensemble. Des fois, j'ai 40 portées, 50 portées à lire, mais...
On vous a vu diriger des choses comme ça.
Oui, mais ça me fait pas peur. Mais pour chacun, il exige le meilleur. Donc voilà, moi, mon job, c'est de susciter le meilleur et la plus grande ascension chez chacun pour avoir cette partition folle de M. Kastner.
Et cette partition, il n'y en a qu'un manuscrit ou il y en a plusieurs de cachets ou des choses comme ça ?
Non, il a fait une édition parce que je pense que le monsieur a eu assez de succès pour avoir assez d'argent et pour avoir assez d'argent pour imprimer. Ça coûte cher, l'édition, à l'époque. Hein. Donc voilà, on a une très belle partition éditée. C'est vraiment très précieux. Et puis il y a tous ces autres poèmes symphoniques, son opéra.
Donc, envie d'aller voir les opéras.
Ah, bah oui, ça.
Je comprends.
Évidemment.
Et c'est du même niveau, les autres ? L'opéra, vous l'avez déjà vu ?
Alors, l'opéra, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu 2 autres poèmes symphoniques. Des amis m'ont dit qu'ils ont lu aussi de la musique instrumentale. Les spécialistes, évidemment, ils m'ont dit, mais c'est vraiment d'un haut niveau. Et qu'est-ce qu'on s'amuse ? C'est surtout ça. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il sait faire sonner et qu'on s'amuse vraiment, franchement.
D'accord. Alors, après Montpellier, vous allez faire quoi ? Vous vous reposez peut-être un peu ?
Pas encore, parce que là, je repars à la capitale, commencer à répéter la messe solennelle de Berlioz, qu'on donnera à la Côte-Saint-André été. Et puis ensuite, en tournée à Versailles, à Bruxelles et dans bien d'autres villes. On commence un autre programme Mozart, un petit programme Mozart autour des messes brèves écrites à Salzbourg, qu'on joue plus du tout. Donc avec un tout petit ensemble du concert spirituel. Et là, on a une grande tournée pendant une année, pendant plusieurs... Je crois qu'on va faire une quinzaine de représentations de ces petites Mozart. Donc voilà, ça c'est le... Puis après les vacances aussi, ça j'en ai besoin.
C'est marrant parce que Mozart, parce que c'est pas... Il y a un bruit qui courait, Niqué, il n'aime pas Mozart.
Alors... Oui, non, mais ça j'aime bien les bruits qui courent. Oui, souvent Mozart m'ennuie. parce que
bien souvent, directement.
Ah oui, oui, souvent il y a des grandes choses qui sont somptueuses, hein, mais qui sont tellement prévisibles. Ah. Moi, je préfère Haydn qui vous attend au coin là, et puis pouf, il vous propose autre chose. Mais reconnaissons que Mozart est un génie, qu'à chaque fois qu'il met trois notes, c'est absolument sublime. Et c'est pour ça que j'ai joué ces messes brèves il y a 40 ans, il y a 50 ans, quand j'étais petit garçon, j'ai toujours trouvé ça merveilleux.
Oui, en tant que chanteur, d'ailleurs.
En tant que chanteur. Et donc, j'ai eu envie, là, de retrouver ces sensations, ces souvenirs autour de ces délicieuses messes de Mozart. Et j'avoue, en y ajoutant des sonates d'église, en y ajoutant des bouts de concerto, c'est une heure et quart de musique absolument délicieuse.
Alors, il y a quelques jours, on a vu un de vos anciens clavecinistes qui nous a joué du Détouche.
Oui.
Alors, c'est marrant de retrouver Détouche à Montpellier.
Oui, alors, Louis Noël, le Bestion de Camboula, c'est un de mes anciens étudiants que j'avais vu à Ambronay. Et ben, je lui ai donné le goût de Détouche, puisque quand on s'est croisés, j'avais à l'Académie programmé une œuvre de Détouche. J'en avais fait d'autres. Je lui ai dit, surtout, si tu, un jour tu fais quelque chose, va regarder chez Détouche, c'est un génie. Et ben, il m'a écouté. J'aime bien quand les gens m'écoutent.
Mais c'est vrai que c'est une belle œuvre.
Ah, c'est très, très belle œuvre.
Oui, c'est pas... C'est, j'oserais presque dire, le chaînon manquant entre Lully et Rameau.
Oui, pour une raison toute simple, c'est que n'oublions pas qu'avant d'être compositeur, Détouche était un militaire.
C'est ça.
Et le type, il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien.
C'est ça.
Alors que les autres vont chercher la beauté, le métier, la joliesse. Lui, c'est un soldat. Il n'a pas peur de tuer du monde. Il y va. Et le type, il sait vraiment faire.
Vous avez envie d'y revenir, vous ?
Ah oui, 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 bien sûr. Mais ça me fait très chaud au cœur de voir mes anciens étudiants qui commencent à voir des ensembles suivre un peu quelques directions que j'aurais données. Et Louis Noël, là, avec des touches. Puis j'en ai d'autres aussi qui vont s'attaquer à ça. Donc c'est assez plaisant.
Et vous avez un grand opéra, que ce soit un Lully ou un Rameau, en vision de ces jours-ci ? C'est ainsi ou pas du tout ?
Oui, mais on va en reparler plus tard, cher ami, quand tout cela sera un peu officiel.
D'accord, je ne dirai pas plus. Bon, mais merci, merci Hervé, et puis à bientôt.
À très bientôt.
Et oui, les meilleures choses ont une fin. C'était donc la dernière émission que je vous propose autour du festival de Radio France Occitanie Montpellier. Vous avez entendu M. Niquet qui hier soir nous a donné les Cris de Paris, donc cette œuvre extraordinaire. Alors pour le moment, elle n'est pas diffusée sur France Musique. Je vous promets que quand elle sera diffusée, nous en prenons quelques extraits. Vous avez entendu quelques extraits puisque c'était un CD qui a été enregistré en 2009 par l'ensemble Clément Jeannequin dirigé par Dominique Wyss. Extrait qui avait été donné on est ici au festival. Et c'est une œuvre assez extraordinaire. Une partie du public est assez décontenancée. Et je vous ferai écouter pour quelles raisons. Donc, immense œuvre. Donc, la soprano Lucie Dedel, Enguerrand de Huys, le ténor, Arnaud Richard, baryton basse, les solistes d'Opéra Junior, ainsi que les chœurs du concert spirituel, l'Opéra Junior, le chœur symphonique de Montpellier, surtout l'orchestre de la garde républicaine, avec l'harmonie, et croyez-moi, ça pétaradait. Donc tout ceci, direction Hervé Niquet. Aujourd'hui, 27, dernière journée, donc vous avez toujours la suite des films du côté de Bernstein, à la salle Einstein à 11h. Vous aurez la salle passeur Jean-Paul Gasparian au piano à 12h30, et ensuite un grand bal à l'Opéra de Berlioz à 20h, l'Orchestre de Montpellier dirigé par Georges Palivanian, et à 21h au Doendo, la soirée FIP. Voilà, ceci termine notre émission. J'ai eu un grand bonheur à faire cet ensemble de 8 émissions autour du festival. Évidemment, j'aurais aimé pouvoir vous proposer d'autres interviews. Il y en a un certain nombre qui ont été annulées pour diverses raisons. Tant pis, c'est comme ça. Il faut toujours en prévoir plus pour arriver à remplir. Et c'était un vrai bonheur. Et je remercie la technique aujourd'hui. Et je vous dis bien à la rentrée. À bientôt, c'est-à-dire au début septembre. Bye bye.